Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Kisangani dans la Tchopo. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Ouverture tardive de bureaux, défis logistiques, communication déficitaire, autant de failles que la synergie des missions d'observation citoyenne retient des deux premières journées de l'opération de la révision du fichier électoral en RDC. Bonne nouvelle pour la province du Kasaï oriental, bientôt le ciment gris sera produit dans les territoires de Katanda. Le permis d'exploitation de la cimenterie des Loubi-Langi-Siloubi a été remis ce week-end à l'entreprise Boualaba Bouetoubiouma. L'invité de ce journal est le maire sortant de la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. Jean-Louis Alasso donne son point de vue sur les récentes nominations dans la territoriale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouverture tardive des bureaux, défis logistiques, communication déficitaire. Autant de failles que la synergie des missions d'observation citoyenne retient pour les deux premières journées de l'opération de la révision du fichier électoral. Notamment lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle constituée des provinces du Congo central, du Kwango, de Maïndombe, de l'Équateur, du Nord et Sud Ubangi, de la Tchouapa, de la Mongala et de la ville province de Kinshasa. C'est dans un communiqué daté du 6 décembre que cette plateforme fait part des observations préliminaires de cette opération. De détails avec Honoré Missenga Kalala.
Le communiqué de la CIMOCEL porte la signature de son coordonnateur national, Maître Patrick Ntambwa Ngoyi. Il met en évidence les tendances générales observées dans les centres d'identification et d'enrôlement des électeurs pendant les deux premières journées. 15 à 40 inscrits à la première journée selon les endroits, 40 à 75 à la deuxième journée selon les endroits également. CIMOCEL note cependant, selon ce qui lui a été rapporté par exemple concernant Mongafula ici à Kinshasa, des cas de centres d'inscription qui n'ont pu imprimer leur premier carte qu'au deuxième jour. D'une manière générale, la plateforme parle d'un lancement timide de l'opération de la révision du fichier électoral et défiant la programmation optimiste que la CENI a élaborée. Pas un seul cas de respect de l'heure d'ouverture au premier jour, dispatching du matériel le matin même du lancement de l'opération et dans de nombreux cas, indique CIMOCEL, le personnel des centres d'inscription a dû lui-même prendre en charge le transport de ce matériel.
En bref, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a eu sa carte d'électeur ce mardi matin. Il a été enrôlé au collège Saint-Raphaël de Kinshasa. Le cardinal dit avoir constaté quelques anomalies, notamment la qualité de la carte actuellement délivrée. Je le cite, « On dirait une copie, l'image est en noir et blanc, contrairement à celle qu'on avait avant ». S'est-il exprimé ? Il appelle néanmoins la population à se faire enrôler massivement. En Mbandaka, pendant ce temps, l'archevêque de Mbandaka Bikoro a lancé ce mardi l'appel, un appel à tous les fidèles catholiques d'aller s'enrôler massivement. Monseigneur Ernest Ngboko l'a dit à l'issue de son propre enrôlement au centre d'inscription du lycée Essengo au centre-ville de Mbandaka. Pour lui, c'est un devoir pour tout citoyen. Mais étant donné les échéances des mois et les difficultés logistiques constatées ça et là, il invite les autorités compétentes à la prolongation de l'enrôlement à l'Équateur. Monseigneur Ernest Ngboko est au micro de Paul Richard Malengela.
Depuis le samedi dernier, le président de la République lui-même a annoncé l'enregistrement dans notre province de l'Équateur. Et je me suis fait donc le devoir d'un bon citoyen également pour que je vienne m'enrôler en vue des élections prochaines. C'est très clair, depuis le samedi dernier, j'ai lancé le premier appel pendant la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Noël. J'ai demandé à tous les fidèles de l'Église catholique se trouvant dans la chute de Mbandaka Bikoro et aussi aux hommes de bonne volonté de pouvoir s'enrôler massivement. Parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Et puis un bon chrétien, c'est d'abord un bon citoyen. Étant donné que les échéances se sont fixées tout simplement à un mois, qui est presque rien, alors il ne faut pas qu'ils attendent à la fin pour pouvoir se rouer, en tout cas dans de différents centres, donc d'enrôlement. Étant donné le contexte dans lequel nous vivons, mais également les suffisances du matériel donc approprié donc pour ces opérations, si c'est à Mbandaka, c'est comme ça. Alors à l'intérieur, là où il n'y a même pas de route donc pour déployer le matériel, un mois, je crois que c'est insuffisant. C'est vraiment irréaliste. Je crois que l'État congolais va en tenir compte. Autrement, bon, beaucoup de citoyens ne vont pas voter.
Notez que quelques prêtres religieux catholiques se sont fait également enrôler dans la suite du prélat catholique. Et puis dans la province du Maniema, Eddie Moke Soumaïli, notable et natif du territoire de Kailo, a sensibilisé ses frères et sœurs en s'enrôlant massivement pour permettre au territoire de Kailo de multiplier le nombre de sièges aux prochaines élections. Cette mission de conscientisation, moralisation et sensibilisation s'est clôturée hier lundi à la grande satisfaction de tous. On écoute Eddie Moke Soumaïli au micro de Florence Kizalunga.
Vous le savez bien, le chef de l'État a déclaré l'année 2023 comme une année électorale. En tant que notable du terroir, et en particulier du territoire de Kailo, nous nous inscrivons dans cette dynamique électorale, vision chère au chef de l'État actuel. Il nous a suffi un séjour de 10 jours pour réunir toutes les notabilités, toutes les couches de notre territoire et de leur demander de prendre à cœur les processus électoraux en cours. Et nous avons été entendus. Comme vous le savez, nous étions dans le secteur de Masongola. Il y a eu au moins 9 groupements, on les a réunis. Nous étions avec les gens du secteur de Balanga. Nous étions avec le secteur d'Amboué, ainsi que la chefferie de Bangengele. Puisque le territoire de Kailo regorge à son sein 3 secteurs et une chefferie. Et la cloche a sonné pour tout notable, pour tout politique avéré, d'encourager la révision du fichier électoral. En effet, l'ère n'est plus à la distraction, l'ère n'est plus aux combines politiques et la donne a changé. Il n'est plus question des quotas ou des coulisses politiques, comme ça a été le temps dans les années passées.
À Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, un policier poursuivi pour meurtre a été condamné hier lundi à la peine de mort et 2 autres ont été condamnés à 20 ans de prison pour viol sur enfant. Ces condamnations ont été prononcées par le tribunal militaire garnison de Kikwit, Kwilu et Kwango, qui a siégé en foraine au premier degré du 19 au 26 décembre en matière répressive. Outre ces 3 condamnations, d'autres militaires et policiers ont aussi écopé des peines pour différentes infractions, notamment la violation des consignes, le vol en main armée et autres. Le point avec Irène Boma.
D'après les sources proches du tribunal militaire de garnison de Kikwit, Kwilu Ekwango, qui dirige le major magistrat Bienvenu Mwanansele, il s'agit du policier Mangala Timo qui est condamné à la peine de mort. Il est poursuivi pour meurtre, a-t-on appris des mêmes sources qui expliquent que celui-ci avait tiré à bout portant sur la tête d'un détenu du parquet de grande instance de Kenge qu'on a cheminé en prison et qui a succombé sur les champs. Le condamné est aussi sommé de payer la somme de 2 millions de francs congolais à titre de dommages et intérêts à la partie civile Joachim. S'agissant des cas de viol, le premier concerne le policier Mungongo Likuta. Il est condamné à 20 ans de prison pour avoir commis les viols sur une mineure âgée de 11 ans à Kenge. Et ensuite, il y a le premier sergent Tambwe Kinganga qui est accusé d'avoir violé aussi une fillette de 2 ans. Le tribunal l'a également condamné à 20 ans de servitude pénale principale. Notez qu'au total, 12 causes ont été prononcées lundi par le tribunal militaire lors de cette audience foraine à Kenge. Irène Mboma, Radio Okapi.
Dans le territoire de Kabambare, au Maniema, à l'extrême sud du territoire de Fizi, au sud Kivu, 2 chefs de village de Lukolo et Mutuka sont portés disparus depuis une semaine dans le groupement Banyabemba, secteur de Babuyu, au Maniema voisin. Les victimes seraient kidnappées avec 4 ressortissants chinois par des hommes armés identifiés comme des éléments d'une faction du groupe Mai Mai Yakutumba, coalisé aux miliciens à Panapale. Selon des sources locales, les agresseurs exigent la rançon d'une grosse somme d'argent pour relâcher les victimes. Des détails avec Fiston Goma Mayabala.
D'après plusieurs sources concordantes à Kalonda Kibuyu, les miliciens expliquent cet enlèvement par le fait que les 2 chefs de village mangent seuls les redevances coutumières payées par les Chinois. Une somme de 5 000 $ américains débloquée chaque mois est partagée entre les autorités provinciales, territoriales et du secteur à travers ces 2 chefs de village, Lukolo et Mutuka. Cependant, aucune action de développement n'est visible dans le milieu, souligne la nouvelle société civile congolaise. Son président, DJ Kalonda, demande au nom de la population civile locale que les exploitants miniers respectent les cahiers des charges leur soumis et que l'exploitation de l'or se fasse de manière officielle. Signalons que depuis 2013, une société chinoise non autrement identifiée exploite de l'or sur la rivière Kimbe et Luiko dans les territoires de Kabambare et secteur de Babuyu. De son côté, la chef du groupement Banyabemba, Sidonia Mulindi, dit réclamer la libération immédiate de ces personnes enlevées avant toute réclamation. Pour l'instant, aucune réaction des FRDC dont les unités sont basées à Lulimba dans les territoires de Fizi, à 46 km de la forêt, entre Force Bendera et le village Lambokatenga où les bourreaux ont amené leurs victimes. Douvira Fistongo Mayabala, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, il s'est ouvert hier lundi à Kisangani le forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental. Ces assises de 4 jours ont été ouvertes officiellement par le gouverneur de province intérimaire, Paulin Lendengolia, sous la facilitation de Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Le prélat catholique a déterminé 3 thématiques qui seront abordées au cours de ces assises. Il s'agit de l'unité, la paix, la sécurité, les développements socio-économiques et la coopération interprovinciale. Et enfin, la gouvernance, la participation et le leadership politique. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Sur le plan sécuritaire, Mgr Marcel Outembi a fustigé la présence des groupes armés locaux et les conséquences qui en découlent. Du point de vue socio-économique, il a dénoncé l'exploitation anarchique des ressources naturelles, l'effondrement des activités économiques, le délabrement des infrastructures socio-économiques de base et la paupérisation de la population. Sur le plan de la gouvernance et leadership, il a épinglé la faible représentativité des fils et des filles de cet espace dans les institutions nationales, le manque de cohésion et de solidarité entre les membres de cet espace et le faible rayonnement des partis politiques. Ainsi, Mgr le Président a engagé les participants à s'efforcer d'identifier les voies et moyens appropriés pour relever les défis. Il les a exhortés aussi à trouver des stratégies devant aider l'espace Grand Oriental à promouvoir et construire l'unité, la cohésion, la paix et le leadership collectif. La solidarité et le développement des 4 provinces de l'espace Grand Oriental et de la RDC doivent également les préoccuper. Enfin, Mgr Marcel Outembi a exhorté les participants à ces forums à travailler activement afin de prendre des résolutions et recommandations fortes susceptibles d'amener l'espace Grand Oriental et la RDC vers le lendemain meilleur sur tous les plans. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle pour la province du Kasaï Oriental. Bientôt le ciment gris sera produit dans le territoire de Katanda. Le permis d'exploitation de la cimenterie de Lubilangi-Siloubi a été remis ce week-end à l'entreprise Boulaba Bwetubiuma BBB en sigle du patriarche Jonas Mukamba Kadiatan Zemba, ancien président administrateur délégué de la société minière de Bakwanga Miba. Cette nouvelle enchante les habitants du Kasaï Oriental qui souhaitent que les autochtones enterrent la hache de guerre pour l'intérêt de toute la province. Des explications avec Esther Dalafina.
Le président du conseil d'administration de l'entreprise Boulaba Bwetubiuma, Jonas Mukamba Kadiatan Zemba, affirme qu'après 30 ans de démarche, enfin le ciment gris sera produit dans le territoire de Katanda au Kasaï Oriental. Selon lui, la mise en œuvre de ce projet concourt au développement de l'espace Kasaï qui importe le ciment gris pour les travaux de construction dans les provinces du Haut-Katanga, de Lualaba, de Kinshasa ainsi que de la République d'Angola. Une autre importance réside dans la création de plusieurs emplois pouvant résorber le chômage décrié aujourd'hui par les jeunes. Plusieurs entreprises s'intéressent à l'investissement dans ce secteur depuis l'annonce de l'octroi du permis d'exploitation, déclare Jonas Mukamba. Il estime que d'ici une année, le Kasaï Oriental peut devenir exportateur de cette matière. Cette nouvelle est bien accueillie par les habitants de la province du Kasaï Oriental. Certains estiment qu'il est temps pour les autochtones d'enterrer la hache de guerre et de s'occuper du développement. D'autres, par contre, demandent à l'initiateur de ce projet, qui est par ailleurs ressortissants de ces territoires, de ne pas exclure par vengeance les autres autochtones suite au conflit foncier qui les oppose depuis plusieurs années. Signalons qu'un sac de ciment gris coûte actuellement $30 sur le marché. La production de cette matière au Kasaï Oriental peut diminuer en deux le prix de sac de ciment ou encore les réduire sensiblement au cas où toutes les conditions de production, dont l'énergie électrique, sont requises, affirment certains observateurs. Esther Dalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, près de 100 lauréats de l'Université Simon Kimbangu, USK, ont été déversés ce mardi 27 décembre sur le marché d'emploi. C'était à l'issue d'une cérémonie d'écollation de grades académiques organisée au centre d'accueil kimbanguiste de Kinshasa. Les recteurs de cette institution universitaire, le professeur Blaise Mouya, a attribué la réussite de cette année à l'implication du corps académique, scientifique et celle des parents. Reportage Blaise Dongala Mayanda.
C'est sur ces rythmes de la fanfare kimbanguiste que les lauréats ont tour à tour défilé à la tribune érigée pour la circonstance afin de recevoir leur diplôme symbolique. Ils ont ensuite remercié les professeurs et encadrés de leur université pour leur accompagnement tout au long de leur cursus académique, comme les souligne l'un d'eux.
Chères autorités, nous sommes donc très reconnaissants envers nos enseignants qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont su tenir les cours pour nous fournir un encadrement digne.
Pour sa part, le recteur de l'université Simon Kimbangu a félicité les lauréats pour leur abnégation et détermination durant leur parcours. Il a salué l'implication des corps académiques et scientifiques de cet établissement universitaire pour la réussite de cette année. Professeur Blaise Mouya.
Nous profitons de l'occasion pour réitérer nos sincères remerciements aux membres du comité de gestion, au personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier pour leur accompagnement, sans lesquels nous ne serions réaliser l'immense tâche, c'est d'encadrer et de former la jeunesse congolaise.
Au cours de l'année académique 2021-2022, l'université Simon Kimbangu a organisé cette faculté dont les droits, les sciences informatiques, les sciences sociales, les sciences agronomiques et la théologie.
Actualité internationale.
Au Gabon, l'unique chemin de fer est coupé depuis 4 jours. Les fortes pluies et le récent séisme de magnitude 4,8 ont conduit à un éboulement qui a enseveli et arraché la voie ferrée sur une très longue distance. Les ingénieurs et techniciens s'arrachent les cheveux car les réparations s'annoncent très difficiles. À la veille du réveillon de fin d'année, les populations craignent des pénuries et une flambée de prix. La Chine levera le 8 janvier 2023 les quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, ont annoncé les autorités sanitaires chinoises après la levée début décembre de la plupart des mesures anti-Covid en vigueur depuis 2020. À compter du mois prochain, seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour entrer sur le territoire chinois, a indiqué dans une note la commission de la santé qui fait office de ministère.
L'invité.
L'invité de ce journal est le maire sortant de la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. Jean-Louis Alasso donne son point de vue sur les récentes nominations dans la territoriale. Il est interrogé par Jacques Moukonkolé.
Jean-Louis Alasso, bonjour.
Bonjour.
À quelques jours, si pas deux semaines de votre départ de l'hôtel de ville, dans quel état d'esprit gérez-vous cette transition dans la ville de Kisangani?
Oui. Lorsque nous avons suivi l'ordonnance présidentielle nommant des nouveaux animateurs des entités territoriales, nous tous nous sommes dit, bon voilà, nous sommes quand même arrivés à la fin de notre mandat. Nous étions dans la grande joie de constater que nous sommes entrés par la grande porte et nous sortons par la grande porte. Mais malheureusement, ce qui se passe maintenant ne nous arrange pas, étant donné qu'on nous a pratiquement arraché la gestion, alors que nous sommes en train de gérer les affaires courantes de la ville.
Qui vous a arraché la gestion alors que vous n'êtes pas encore notifié officiellement par le ministre de l'Intérieur?
Oui, c'est à partir d'un document qui a été signé par Madame le gouverneur. Elle a signé un document où elle a affecté des gens au marché. Et puis, dans le même ordre d'idée, comme je l'ai dit tantôt, on a remis la gestion de la ville à mon adjointe, qui est aussi sortante, même si elle pourra reprendre. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous sommes en train d'attendre la notification qui doit venir de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, jusqu'à présent. Mais nous ne comprenons pas comment, ici à Kisangani, on nous a arraché la gestion de la ville. Non, ça, c'est ce que je peux qualifier d'un coup d'État administratif. Parce que je dois rendre compte à la fin. Et voyez aujourd'hui, si la remise et reprise intervenait aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vais dire, par exemple, en rapport avec la sécurité, en rapport avec les finances, en rapport avec le patrimoine de la ville, je n'en sais rien. Pourquoi je qualifie ça d'un coup d'État administratif?
Avez-vous pris contact avec l'autorité provinciale pour savoir un peu la motivation, les raisons profondes de sa décision?
Bon, l'autorité provinciale n'est pas ici. Nous avons même tenté d'atteindre ses services, mais qui ne veulent pas nous recevoir.
Alors, que faites-vous pendant cette période, puisque la gestion vous a été retirée au profit de votre adjointe?
Vous savez, lorsque vous êtes nommé quelque part, vous devez répondre aux obligations professionnelles jusqu'à la fin. C'est pourquoi je ne me décourage pas, j'arrive chaque jour au bureau et je suis en train d'expédier des affaires courantes. Il y a certains documents qui arrivent chez moi, les autres n'arrivent pas. Bon, toutes les invitations lancées au maire de la ville sont représentées par des tierces personnes. Je ne comprends pas. C'est vraiment désagréable.
Mais monsieur le maire, est-ce que le document signé par l'autorité provinciale n'est pas une façon de mettre des garde-fous pour éviter une gestion entre guillemets un peu désordonnée, une gestion catastrophique pendant cette période de transition?
Non, je pense que c'est un document qui a fait avec une mauvaise intention. Parce que nous avons les garde-fous dans le message officiel du VPM, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, où il nous parle comment nous devons nous comporter pendant cette période. Donc tous les garde-fous sont là, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on doit suivre après tout. Nous sommes dans un état de droit.
Qu'est-ce que stipule le message du VPM au sujet de la gestion pendant cette période transitoire?
Oui, le message du VPM est bien clair. Dans ces messages, on demande que nous ne puissions pas sortir des fonds, par exemple des banques. Dans ces messages, on nous demande d'engager des dépenses ordinaires pour le bon fonctionnement de l'entité. Dans ces messages, on nous demande de ne pas sortir des documents. Voilà l'essentiel du message du VPM. Nous devions les respecter, mais malheureusement, il y a pire que je peux qualifier même d'épistémologique.
Alors, on est à la fin de l'année, monsieur le maire de la ville. D'ici là, vous serez peut-être notifié par le ministre de l'Intérieur. Vous allez quitter l'hôtel de ville. Quel message allez-vous adresser à la population en ces moments?
En cette période de festivités, j'ai un seul message à lancer à la population burmaise. Vous savez que la ville de Kisangani est comptée parmi les villes où il y a la paix, les villes où on ne dérange pas tellement les gens. Je demande que les festivités se passent dans un climat serein. Je demande que tout le monde puisse faire en sorte que la paix puisse régner et surtout la vigilance, parce que nous ne pouvons pas oublier que nous sommes voisins aux provinces sous l'état de siège.
Merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci bien.
C'était l'invité de ce journal, le maire sortant de la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Jean-Louis Alasso était avec Jacques Moukonkolé. Fin de ce journal. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Capi.